Donc, merci d'être avec nous dans le retour en force sur les ondes de Cool FM 103.5. Eh bien, hier, c'était jour de budget à Québec. Et pour nous en parler, on va aller rejoindre la chef de l'opposition officielle à Québec, Mme Dominique Anglade. Bonjour, Mme Anglade, ça va bien?
Mais oui, ça va bien, vous?
Très bien, merci. Donc, hier, Éric Girard, le ministre des Finances de la CAQ, a déposé son deuxième budget à brûle-pourpoint comme ça. Là, quelles sont vos premières impressions sur ce budget? Qu'est-ce qui vous a un peu surpris?
Bien, bon, d'abord, il y a le retard pour le retour à l'équilibre budgétaire, mais je pense que c'est une, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on avait besoin de pas se mettre de menottes à court terme. Par contre, c'est un budget où on a de la difficulté à voir quelle est la vision du gouvernement. En termes de relance économique, on est beaucoup dans la construction, mais il y a des pans, il y a des pans de programme pour certaines entreprises. Mais l'enjeu fondamental qui est le fait qu'il n'y a pas nécessairement de main-d'œuvre, ça, c'est beaucoup moins présent dans le budget. Donc, je vous dirais qu'il manque ce volet-là, certainement. Puis, des enjeux qui sont très criants aussi que l'on a, que ce soit la question de la santé mentale, que ce soit les garderies, là, les personnes qui ne trouvent pas de place en garderie présentement pour leurs enfants, des femmes enceintes qui, justement, se posent la question de ce qui va se passer pour la suite. Donc, il y a quand même des enjeux importants qui n'ont pas été mis de l'avant dans le budget, qui m'apparaît un budget très conservateur par rapport à ce à quoi on se serait attendu.
Donc, vous dites que le gouvernement manque un peu de vision. Qu'est-ce que vous aimeriez comme vision là, post-pandémique, si on veut? On voit que ça, on espère se sortir de cette crise-là quand même dans la prochaine année.
Oui.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme vision?
Bien, quel genre de Québec est-ce qu'on veut avoir? Est-ce qu'on veut avoir un Québec qui fait de la place à toute la question des enjeux climatiques, par exemple, puis toutes les technologies en matière de changement climatique des entreprises dans ce domaine-là, les mettre de l'avant, puis que le gouvernement soit véritablement un moteur de ça. C'est pas le cas du tout présentement. On aimerait voir une prise de conscience par rapport à l'enjeu, des enjeux plus humains que sont la santé mentale. Les jeunes en souffrent. 40% des jeunes adultes aujourd'hui se disent avec des problèmes d'anxiété ou se sentent malheureux ou ils ont vraiment de la difficulté. Donc, ces enjeux-là devraient prendre davantage de place d'un point de vue santé. Alors, je pense que ce volet-là, c'est quel genre, au-delà de la construction, puis on veut mettre de l'argent dans le béton puis faire une relance typique comme on en aurait fait en 1970, en 1980, quel genre de pilier économique que l'on va avoir pour la suite des choses? Ça, on ne le voit pas à l'intérieur du budget.
Dans les dernières semaines, particulièrement cette semaine, on parle beaucoup des féminicides, hein, la violence faite aux femmes. Est-ce que c'est un peu un requin en dessous qui dort avec cette pandémie-là? On aurait peut-être souhaité plus d'argent là, pour cela dans le budget.
Bien, en fait, quand on parle d'enjeux de santé mentale, justement, ça, vous dites le requin qui dort, mais en fait, le requin, on le voit apparaître, puis il y a des gens qui en meurent. C'est la pointe de l'iceberg. Et c'est que les gens, que ce soit des jeunes, les suicides, que ce soit des gens qui deviennent plus violents à cause de ce qui s'est passé dans la dernière année, tout ça c'est relié avec ces enjeux de santé mentale, l'accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les victimes, comment est-ce qu'on fait pour leur trouver des logements, comment est-ce qu'on fait pour les sortir de là, et les enfants qui sont évidemment notre jeunesse qui est associée à ça. Donc ça aussi c'est un enjeu qui est comme je vous dis, quel genre de société est-ce qu'on veut avoir à terme? Mais si c'est important, ces enjeux-là, il faudrait les mettre de l'avant beaucoup plus que ce qu'on a vu dans le budget.
Ce qu'on déplore souvent, c'est qu'il y a des événements comme ça qui arrivent. On en parle beaucoup. C'est beaucoup dans les médias et ça devient un phénomène de société un peu. Mais souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est on met de l'argent sur la table et on pense que ça va régler le problème. Puis tout d'un coup, ça tombe un peu dans l'oubli. Comment est-ce qu'on fait concrètement dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour que ces problèmes-là là, qui ont été vraiment mis en lumière un peu grâce à la pandémie, malheureusement, comment on fait pour les régler à long terme?
Bien, moi, je vous dirais que dans l'enjeu, sur toute la question de la violence conjugale, il y a eu un rapport qui a été déposé en décembre avec 190 recommandations. Moi, M. Veilleux, là, j'ai lu les 190 recommandations, là, je les ai relues pas plus tard qu'avant-hier, justement. Puis, ce qui m'apparaît évident, c'est que il y a des recommandations qui sont plus importantes que d'autres, mais ce qu'il faut avoir, là, c'est quelqu'un, là, c'est vraiment un plan d'action où il y a une personne qui est responsable, elle regarde ça puis elle dit, bon, la priorité, ça va être, par exemple, de mettre un tribunal qui va s'occuper de ces questions-là tout de suite. Puis après ça, ça va être l'accompagnement. Puis voici les dates auxquelles ça va être, quand est-ce qu'on va les faire. Avec des dates, avec des personnes responsables, là, avec vraiment un plan qu'on est capable de suivre, qui peut être transparent, qui peut être partagé avec la population aussi, puis dire voici c'est quoi la manière dont on va déployer les ressources. Donner plus d'argent, oui, mais suivre un plan de match établi avec des dates, avec des personnes responsables, c'est ça dont on a besoin présentement là.
Deux mots qui ont beaucoup résonné aussi lors de la dernière année, racisme systémique. Qu'est-ce que vous pensez du racisme? Est-ce qu'il y en a du racisme systémique au Québec? Et est-ce que vous pensez que le fait de nommer une personne à la lutte contre le racisme va suffire pour régler ce problème?
Ce que je pense qu'il y en a, c'est même pas que je pense qu'il y en a, c'est qu'il y en a. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, est-ce qu'au Québec on est raciste, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a des personnes, à cause de la couleur de leur peau, à cause du fait qu'elles soient d'origine autochtone, font face à des, vont être arrêtées 4 fois plus qu'une autre personne ou 10 fois plus dans le cas des autochtones. Qu'un autre individu. Donc, est-ce que ça existe? Oui. Puis comment tu élimines les barrières? Nommer les choses, ça aide. Avoir quelqu'un qui s'occupe de cette question-là, oui, ça peut aider, mais il faut aller beaucoup plus loin dans la mesure où si tu reconnais pas le problème, c'est dur de le régler. Alors je pense qu'on va voir, faut toujours laisser la chance au coureur. Mais moi, je suis ingénieure de formation. Il y a un petit côté très très pratico-pratique chez moi où je me dis, il y a un problème, disons quel est le problème, puis essayons de trouver une solution concrète. Puis là, on ne veut pas dire quel est le problème, puis je pense que ça nuit à la cause.
Pourquoi on a peur des mots, selon vous?
Parce qu'on pense qu'ils sont chargés, parce qu'on pense que ça veut dire, dans le cas de systémique, on a l'impression que ça veut dire « Ah, mon Dieu, tout le Québec est raciste », mais pas du tout. Ça voudrait dire que toutes les sociétés qui le reconnaissent, par exemple toutes les autres provinces ou bien d'autres juridictions, pensent toutes que ces sociétés-là sont racistes. C'est pas ça du tout. C'est pas ça le message. C'est de dire que on a des biais qui font en sorte qu'on va employer telle personne, pas telle autre personne. Puis c'est normal, il faut qu'on dise c'est normal, ça fait partie de d'une société, mais reconnaissons-le, puis essayons de changer les choses, de changer ces biais-là.
Si on regarde un peu, il y a le spectre d'une troisième vague au Québec de cette pandémie-là qui pourrait peut-être éventuellement retarder un peu la fin de cette pandémie-là, de tout le cauchemar qu'on vit depuis une année. Est-ce que vous trouvez que concrètement, aujourd'hui, le gouvernement n'en fait assez pour prévenir cette troisième vague-là?
J'aurais aimé pouvoir dire oui, mais regardez le budget. Ouais. Avez-vous vu une ligne par rapport aux différents scénarios quant à la troisième vague?
On semble être fini, là. Ça semble, on est déjà post-pandémie, là.
Alors, mais je vous rappelle que le dernier budget, là, tout le monde disait, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la crise du coronavirus? On appelait ça coronavirus plus davantage à il y a un an. Puis il n'y avait rien dans le budget, puis 2 jours plus tard, on était en arrêt. Là, il n'y avait rien pour la troisième vague. On est à 950 cas aujourd'hui. Le minimum qu'on devrait avoir présentement, c'est des cas de figure, des scénarios. Qu'est-ce qui arrive dans telle situation? C'est quoi les 3 différents scénarios que vous regardez à la santé publique? Puis, quels sont les moyens que vous allez mettre en place? Alors, ça, on l'a pas vu parce que le gouvernement prend des décisions politiques, nous dit parfois que c'est basé sur la science, mais pas toujours basé sur la science. Et ne nous informe pas suffisamment des décisions qui sont prises par rapport à la science. Donc, je pense que ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu et qui nous laisse présager que s'il y a une troisième vague, on ne sait pas comment le gouvernement est préparé.
Si on parle de la prise de décision, justement, par rapport à la crise de la pandémie, on sait qu'il y a une cellule de crise. Le gouvernement semble se pencher cette cellule de crise-là. Le seul scientifique qui semble assis autour de la table, c'est le Dr Horacio Arruda. En tant que député, vous êtes chef de l'opposition, vous avez été consulté dans quelques circonstances de la pandémie, mais pourquoi ce n'est pas débattu avec tous les députés? Est-ce que vous avez l'impression que la population en tant que telle est entendu à l'Assemblée nationale pour ces décisions cruciales dans notre vie?
Non, je n'ai pas cette impression que c'est, tous ces points de vue-là sont ramenés. Puis vous avez raison de dire que c'est un comité qui est très politique. C'est très politique, c'est de la communication. Il y a plein d'autres personnes qui pourraient être adjointes. Notamment des experts. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations. Regardez ce qui s'est passé avec les, euh, les N95, il y avait un rapport, un reportage d'enquête qui montrait que on avait dit que c'était un élément critique pour protéger certaines personnes de la population, notamment ceux qui sont dans le milieu de la santé. Puis l'information est jamais, elle a essayé d'être partagée, on n'a pas entendu, on n'a pas vu, on n'a pas voulu l'écouter. Donc, je pense qu'en termes de transparence, on a véritablement un enjeu sur les décisions qui sont prises, ça c'est sûr.
Le mot transparence a pris beaucoup de place, surtout dans la bouche des oppositions officielles. Que reprochez-vous concrètement de transparence au niveau du gouvernement de la CAQ?
Quand, sur le terrain, là, il y avait des gens qui disaient « on manque de matériel de protection ». Vous vous souvenez, au début de la crise, les gens le disaient, on a manqué de matériel. Jusqu'à présent, le premier ministre, il n'a jamais dit qu'il a manqué de matériel de protection. Malgré les rapports qui ont été accablants là-dessus, malgré tout ça, il ne reconnaît pas qu'il y a eu un manque de matériel de protection. Ça illustre le fait qu'on n'entend pas ce qui se passe sur le terrain, on refuse de l'admettre. Et quand je parle de manque de transparence, ben c'est ça. Quand on nous dit qu'on va suivre les avis de la santé publique puis qu'on demande à voir les avis de la santé publique, ça prend 4 mois pour en avoir 14, on ne sait pas si on a tous les avis de la santé publique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir les avis de la santé publique au moment où les décisions sont prises? Pourquoi? Alors, toutes ces questions-là, lorsque l'on parle de transparence, c'est ça. Dites-nous comment les décisions sont prises, avec quelle information, puis dites-nous ce qui est politique de ce qui n'est pas.
On est à moins de 2 ans des prochaines élections au Québec, bien sûr. Comment on se prépare? Vous êtes nouvellement chef, depuis 1 an, du Parti libéral du Québec. Comment on se prépare d'ores et déjà pour la prochaine campagne électorale? Est-ce que la crise sanitaire, ou plutôt la gestion de la crise sanitaire, risque de prendre une bonne partie du débat, selon vous?
Ben, on vient de vivre une crise qui est vraiment hors norme, donc c'est sûr que je pense que ça va prendre ça va faire partie des débats. Mais je vous dirais que la question qu'il faut se poser, c'est quel genre de Québec on veut avoir post-crise. Moi, je pense que c'est ça l'élément qui va être important pour la prochaine campagne électorale. Quel genre de Québec on veut avoir, un qui est moderne, un qui est inclusif, un qui nous donne une vision où on épouse les changements climatiques, on épouse des questions qui sont vraiment importantes pour notre avenir collectif et qui nous permettent de rayonner aussi à l'échelle internationale. Moi, je pense que ça va être ça, l'enjeu de la prochaine élection.
Lors d'une période de questions cette semaine, le premier ministre vous a carrément dit que vous êtes un peu un Québec solidaire libéral. Est-ce que c'est quelque chose que vous préparez, une fusion avec Québec solidaire, là? Que vous répondez-vous, premier ministre?
J'ai même pas eu besoin de répondre. Il y a le sac de chips. Le sac de chips à l'Assemblée nationale qui a fait un beau portrait, qui a dit pour prendre cette expression-là du premier ministre pour dire à quel point c'était un peu ridicule. Donc ils ont passé ça. Vous êtes allé voir ça sur Zone Asnat où ils ont repris les propos du premier ministre, puis ils ont dit est-ce qu'il y a un lien à faire? La réponse c'est premièrement c'est Il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Je pense que le Parti libéral, c'est le parti qui a su représenter à travers l'histoire du Québec un parti de progrès, un parti qui a une vision. Puis c'est ça qu'on va vouloir présenter aux Québécois, pas un dogmatisme, pas l'intervention de l'État, la nationalisation à tout prix, puis de manière dogmatique, au contraire. Mais avec la vision, avec de l'empathie aussi pour les enjeux sociaux, parce qu'on a des enjeux sociaux importants auxquels il faut se consacrer une énergie. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on l'incarne également.
En terminant, du côté économique, si on veut, est-ce que vous êtes plus à droite? Est-ce que vous voulez la rectitude un petit peu plus économique au Québec pour cette vision dans les 5, 6, 7 prochaines années?
Moi, ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est qu'on soit capable de dire que le gouvernement, par exemple, sur des enjeux, qu'il soit capable de représenter une vitrine pour que les entreprises puissent performer, que les entreprises puissent innover. Toute la question de l'innovation va être extrêmement importante, mais ça doit être fait d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Et on a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui seraient prêts à embarquer là-dedans. Encore une fois, avec une vision qui est moderne. Alors, cette modernité-là, là, oubliez la droite ou la gauche, là, c'est qu'est-ce qui nous tire par le haut, qu'est-ce qui fait en sorte que on va de l'avant avec de l'innovation pour les entrepreneurs. Ça, je pense que c'est ça les questions qui vont être importantes pour la suite des choses.
Eh bien, merci beaucoup, Mme Anglade, pour cette entrevue. On vous souhaite un agréable week-end.
Parfait, je vous remercie beaucoup.
Parfait, c'était Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle du Parti libéral du Québec. On s'arrête.